de ce thème du don ou des dons matériels, financiers que nous sommes amenés à faire dans le cadre de l'Église. Alors, on pourrait dire que c'est un sujet délicat, c'est un sujet sensible. Vous voyez, dans notre pays de France, dès qu'on parle de sous, eh bien, les cœurs se crispent. Ça ne devrait pas être un sujet délicat ni sensible, parce que vous avez certainement noté, dans la parole de Dieu, ce sujet est fréquemment et abondamment abordé, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, nous allons examiner ce matin quels sont les principes bibliques qui doivent régir, régler le fait de donner, non pas à un homme ou à des hommes, mais à l'œuvre de Dieu. Voilà, on va lire quelques textes. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16, au verset 1er, voilà, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 1er. Il est dit ceci, n'est-ce pas ? Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, c'est-à-dire des croyants, agissez-vous aussi, dit Paul, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et puis on va passer dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, aux croyants. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et puis, enfin, une dernière lecture, dans le chapitre 9, toujours de la deuxième aux Corinthiens, au verset 5, deuxième aux Corinthiens, chapitre 9, verset 5, où il dit... J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et l'augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Voilà. Alors, quels sont donc les principes qui doivent régir bibliquement le fait de donner financièrement, matériellement à l'œuvre de Dieu? Le texte que nous avons lu nous précise que les dons que nous faisons ne sont pas offerts, ne sont pas présentés par contrainte. Non par contrainte, nous dit le texte. Vous savez que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait la dîme. C'était une espèce d'imposition que Dieu avait établi au sein du peuple d'Israël, qui se devait légalement, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse, donc, de verser 10% des revenus à l'œuvre de Dieu. Et même quand on étudie les textes de près, il y avait une deuxième dîme et même une troisième dîme dans certaines circonstances. C'était obligatoire. Alors, nous n'en sommes plus là, puisque l'Écriture dit que notre service ne doit pas être exercé par contrainte, par obligation. Mais si ce n'est pas par contrainte, si ce n'est pas par obligation, c'est par quoi? Eh bien, c'est par amour. C'est par amour. Vous connaissez ce texte. Jésus dira que c'est le premier de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ta pensée. Puis il ajoute, et ton prochain comme toi-même. Mais voyez, l'amour que nous manifestons au Seigneur, parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous l'aimez, s'applique aussi à ce domaine. Et de ce fait, je me pose la question, et je me permets de la formuler devant vous. Pouvons-nous, nous qui vivons sous la grâce, faire moins que ceux qui vivaient sous la contrainte de la loi? Je ne le pense pas. Je répète la question. Pouvons-nous, nous qui vivons sous la grâce, et non plus sous la loi, faire moins que ceux qui vivaient sous la contrainte de la loi? Bien sûr, il existe des situations particulières, les jeunes qui sont en cours d'études ou en recherche d'emploi, la situation aussi de ceux qui ont un conjoint inconverti, et des fois, eh bien, on voudrait faire plus, on voudrait faire mieux, mais nous sommes devant des situations particulières. Le texte nous dit aussi que chacun donne non par contrainte, mais comme il l'a résolu, voyez, comme il l'a résolu, ce qui suppose une réflexion à ce sujet. Je ne dois pas donner selon l'humeur du moment, parce qu'aujourd'hui, eh bien voilà, j'ai particulièrement été sensible à une atmosphère spirituelle qui m'a un petit peu émoustillé, alors mon portefeuille va s'ouvrir davantage que d'habitude. Puis cette fois-là, eh bien, je vais venir avec mes soucis, mes fardeaux. La prédication me passera au-dessus de la tête. Bon, je ne suis pas tellement concerné par ce qui se passe, et alors, eh bien, je vais moins donner. Non. Ça suppose une réflexion. On ne donne pas selon l'humeur du moment ou ce que j'ai dans le porte-monnaie au moment où la corbeille passe, mais on a examiné la question devant Dieu auparavant. C'est une affaire sérieuse. On examine la question devant Dieu auparavant, avant même que de venir au culte. Et voyez-vous ce qui doit guider ma réflexion? Eh bien, c'est ce qui s'est passé lors de ma conversion. Comment vous vous êtes converti? Vous êtes converti le jour où vous avez compris que Dieu, dans son amour, avait donné pour vous ce qu'il avait de meilleur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vérité qui s'applique à l'humanité tout entière, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Eh bien, ce jour-là, nous l'avons saisi quant à nous-mêmes. Nous avons compris que Christ sur la croix n'était pas simplement victime de la méchanceté des hommes de ce temps-là, mais qu'il est mort par amour pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour que par ce sacrifice, nos péchés soient pardonnés, notre âme sauvée et que nous ayons la vie éternelle. Jésus dira, ma vie, personne ne me la prend, je la donne de moi-même. Il ajoutera, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et vous savez, il a tout donné de lui-même pour assurer notre salut. En retour, quand je me suis converti, en tout cas, il faudrait que les choses soient ainsi, je me suis donné à lui, oui ou non, avec tout ce que je suis. Et je vais vous dire quelque chose, aussi, avec tout ce que j'ai. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Je me suis donné à lui avec tout ce que je suis et aussi tout ce que j'ai. Parce que finalement, dans la conversion, il y a ça. Tout ce que j'ai, désormais, lui appartient. Tout ce que j'ai désormais lui appartient. Oh, rassurez-vous, il m'en laisse la jouissance. Mais cependant, les biens qui sont les miens ou que j'estime être les miens ne sont pas en fait les miens, mais les siens. Les siens dont il me laisse pour l'essentiel la jouissance. Mais puisque tout lui appartient, il s'agit maintenant pour moi de savoir comment je vais gérer non pas mes biens, mais les biens dont Dieu m'a confié l'administration. Je ne suis que le gestionnaire, le gérant, l'administrateur, non pas de mes biens matériels, mais de ses biens à lui. Et la question pour moi se posera de savoir la chose suivante. Quelle est la part de ses biens vais-je garder pour moi? Et quelle part de ses biens vais-je lui rendre? Parce qu'après tout, lorsque je mets ma participation dans la corbeille qui passe, eh bien, je ne fais que lui rendre ce que lui-même m'a auparavant donné. En tout cas, une partie. Ce genre de réflexion doit nous inciter, mais oui, frères et sœurs, à donner généreusement. Lorsque Paul exhorte les Corinthiens, il leur dit ceci, n'est-ce pas, que votre libéralité soit faite de manière à être une libéralité, de Corinthiens chapitre 9, verset 5, à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous voyez ? Une libéralité, un acte de générosité, parce qu'on donne avec le cœur et on donne à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas question ici de prêcher ce que certains appellent l'évangile de la prospérité. Vous savez, ces gens qui racontent que plus tu donnes, plus tu vas recevoir, et que les chrétiens devraient tous être riches, riches comme ce n'est pas possible de l'être. Ça, c'est un faux évangile, et il faut le dénoncer vigoureusement. Mais il est aussi écrit, nous l'avons lu tout à l'heure, que celui qui sème peu, il moissonne peu. Et que celui qui sème abondamment, il moissonne aussi abondamment. Ce principe général s'applique en tout domaine, y compris dans le domaine matériel, y compris dans le domaine financier. Vous savez, Dieu est fidèle. Alléluia ! Est-ce que Dieu est fidèle ? Et oui, il est fidèle en tout domaine. Il y a un texte de l'Écriture, il est écrit que Dieu n'est le débiteur de personne. Voilà. Dieu ne me devra jamais rien, il ne sera jamais en reste avec moi. Et il fera dans ce domaine aussi, matériel, plus que nous ne pourrons faire pour lui. Je vous assure que c'est vrai. Dieu est un Dieu fidèle dans les affaires matérielles. Et je sais que pour beaucoup, je ne vous apprends rien parce que vous l'avez maintes et maintes fois expérimenté. Et puis le texte nous dit qu'il faut aussi donner dans la joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous devons nous sentir honorés de ce que Dieu accepte notre offrande et de ce qu'elle participe à son œuvre. C'est une grâce, dira l'apôtre Paul. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un privilège. Finalement, c'est un cadeau que Dieu nous fait, par lequel il nous honore en acceptant notre offrande ou nos offrandes. Lorsque l'apôtre Paul écrit à son ami Philémon, vous lirez cela dans l'épître qui porte son nom, l'épître à Philémon, il dit ceci, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Et lorsque je participe financièrement, n'est-ce pas, à la foi, à l'œuvre de Dieu, eh bien, je permets l'avancement, comment dire, la promotion de la foi chrétienne, de la foi évangélique, de la foi de la parole de Dieu, de la foi en Dieu. Au travers de mes dons, mais l'évangile va se répandre, la parole va être prêchée, ici et là, des âmes seront sauvées, des vies changées, transformées. Ta participation à la foi, qu'elle soit efficace pour la cause de Christ. D'autant plus que, répétons-le, tout lui appartient. Texte de l'Écriture, c'est Dieu qui parle. L'or et l'argent sont à moi. Vous voyez ? Tout ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, dans les banques suisses, et puis même dans les banques françaises, c'est à Dieu, mes amis. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Cela fait aussi partie de mon sacerdoce. Vous voyez ? donner à l'œuvre de Dieu, être généreux, faire preuve de libéralité, donner non pas chichement, mais généreusement, ça fait partie de mon sacerdoce. Dans l'Apocalypse, il est dit, dans le chapitre 1er, je n'ai pas noté le verset, que Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous avez lu ça? Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce que fait un sacrificateur? Ben, c'est très simple. Un sacrificateur, il offre des sacrifices. Et dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, cette notion de sacrificateur et donc de sacrifice qui sont associés est précisément explicitée dans Hébreux chapitre 13 et le verset 15, voilà, il est dit ceci, Hébreux chapitre 13, verset 15, voilà, on attend que la technique se réveille, merci. Hébreux chapitre 13, verset 15, par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Merci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous sommes des sacrificateurs. Et voyez, dans ce texte que nous venons de lire, eh bien, il est question de deux sortes de sacrifices. D'abord, un sacrifice de louange. Ce matin, Dieu, faisant de vous des sacrificateurs, vous avez offert votre sacrifice. Vous avez exercé votre sacerdoce de croyant, de chrétien, d'enfant de Dieu, de disciple de Christ, en louant le Seigneur, en l'adorant. Vous avez, n'est-ce pas, proclamé ses louanges, le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est bien. Mais l'Écriture nous parle là de notre sacrifice. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Lorsque je donne à l'offrande, je n'accomplis pas un devoir pénible et rigoureux, mais j'exerce mon sacerdoce. Je suis sacrificateur pour Dieu le Père, ainsi Dieu l'a voulu. Voyez, je crois que nous devons comprendre que dans le fait d'offrir des sacrifices, il y a la notion de renoncement. De renoncement. Rappelez l'histoire de la pauvre veuve. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, au verset 41, il est question de cette femme. Voyez, Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc, regardant comment les gens y mettaient. Non pas combien, mais comment. Alors plusieurs riches, des gens nantis, des gens qui avaient les moyens, mettaient beaucoup, c'est bien. Mais elle s'est approchée discrètement et elle a glissé dans la fente du tronc deux petites piécettes. Son offrande, pour le trésorier de l'époque, ça ne représentait pas grand-chose. Mais pour elle, c'était beaucoup. Parce que Jésus dira, elle a donné non pas comme les autres de son superflu, mais de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour lui. Sa consécration, son amour, sa foi aussi s'exprimait au travers de ce geste. Sa consécration, sa foi et son amour pour le Seigneur. Je dis sa foi parce que, puisqu'elle a donné ce qu'elle avait et tout ce qu'elle avait, elle a compté sur Dieu pour le reste, se souvenant qu'il est écrit dans la parole, l'Éternel pourvoira. Alors il ne s'agit pas, évidemment, de se mettre dans le dénuement, mais il s'agit cependant de manifester un état d'esprit de consécration en étant généreux quant à l'œuvre de Dieu. Car, vous l'avez compris, on ne donne évidemment pas à un homme, mais à Dieu. Les hommes passent, hein? J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Tandis que le Seigneur demeure. Le Seigneur demeure. Israël, le peuple de Dieu, a péché dans ce domaine de l'offrande. Dans le livre de Malachie, eh bien, il est fait référence à ce fait, n'est-ce pas? Avec désolation, avec consternation, eh bien, Dieu a perçu l'infidélité, la désobéissance du peuple d'Israël. Il lui dira, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. et par manque de rigueur, de sérieux, de fidélité, d'obéissance, le peuple d'Israël en a subi les conséquences fâcheuses. La sécheresse s'est abattue sur le pays. Les récoltes ont été bien plus maigres que ce qu'on aurait pu l'espérer. Dieu lui a fait le reproche de son infidélité. En l'assurant qu'en réponse à l'accomplissement de son devoir, Israël connaîtrait à nouveau une bénédiction abondante. Car Dieu ouvrirait les écluses des cieux. C'est écrit là, Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Tout ça pour souligner que, voyez, il est possible, donc, si j'en crois la parole de Dieu, elle est fiable, la parole de Dieu, il est possible, hélas, de pécher dans ce domaine. Si nous n'assumons pas correctement nos responsabilités, si, eh bien, comme Israël autrefois, nous sommes infidèles et désobéissants. Je termine en disant ceci. Quelqu'un a dit, c'est pas dans la Bible, mais c'est pas sot. Alors, je vous livre cette réflexion. Quelqu'un a dit, quand Dieu a un projet, il a aussi un budget. Quand Dieu a un projet, il a aussi un budget. Et quels sont les projets de Dieu? Vous savez que Dieu a des projets? Par exemple, de toute éternité, il a eu le projet de vous sauver. Parce que la Bible dit que, avant la fondation du monde, nous avons été élus en son Fils bien-aimé. C'était le projet de Dieu, ce projet, il l'a mis en exécution. Dieu a comme projet que l'Évangile soit prêché sur toute la terre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors il y a la mission extérieure, si je puis dire, au-delà des frontières. Et par le fait, le biais de l'action missionnaire, les assemblées de Dieu de France, dont nous faisons partie, participent à l'évangélisation du monde. Voyez, il y a cette offrande spéciale pour la mission, afin que l'évangile soit porté jusqu'au bout de la terre et que des peuples qui n'ont pas encore eu la grâce, le privilège d'entendre le message du salut puissent l'entendre pour que des hommes et des femmes viennent à la connaissance du salut. Il y a la mission intérieure. La mission intérieure en vue de l'ouverture d'œuvres nouvelles, d'églises nouvelles. Et notre assemblée y participe, à l'un comme à l'autre. Mission extérieure et mission intérieure. Et puis il y a notre ville qui doit être évangélisée. Nous avons besoin de locaux adaptés. Nous avons besoin de louer des salles. Nous avons besoin d'imprimer des prospectus. Nous avons besoin de soutenir financièrement les serviteurs de Dieu de passage qui viennent parmi nous, annoncer la parole de Dieu. Tout cela, vous voyez, ça fait partie du projet de Dieu. Et nous devons nous efforcer d'entrer dans les projets de Dieu. D'entrer dans les projets de Dieu. Et puis, le Seigneur a un autre projet. Hein? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, il est dit que voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus dira à ses disciples, aux 12, « Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie, qu'il lance littéralement des ouvriers dans sa moisson, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. » Voyez, le projet de Dieu, c'est que l'Évangile soit prêché, nous venons de le dire, dans le monde entier, et que pour ce faire, eh bien, des ouvriers se lèvent, des ouvriers soient formés, des ouvriers soient préparés, des ouvriers soient envoyés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous donnons financièrement, nous participons à ce travail. Oui. Participons à ce travail. Nous bénissons Dieu d'avoir pu, eh bien, comment il faut dire ça, recruter Kevin. Alléluia. C'est un privilège pour l'Église, mes amis, de participer à la formation d'un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de dire moi, 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 nous. Mais il s'agit de penser à l'avenir, aux années qui vont suivre, aux décennies qui vont suivre si le Seigneur tarde. Nous sommes toute une, comment dire, une ribambelle de serviteurs de Dieu arrivant à l'âge de la retraite. Vous voyez, ça fait tout drôle. Hein. On est tous entrés à peu près à la même époque dans le ministère. Maintenant, on se dit, oh, tant on est, on pensait, il faut passer le relais. Vous voyez, après le baby-boom, c'est le papy-boom. Ben ouais. Et il faut que ça suive derrière. Mes amis, il faut que les églises s'investissent et investissent financièrement pour permettre la formation de serviteurs de Dieu. Et il faudrait, il ne faudrait pas que ce soit un vœu pieux, il faudrait que ça passe dans la réalité qu'après Kevin, eh bien nous puissions assurer, si tant est que Dieu le permette, la formation d'autres serviteurs de Dieu. Vous voyez, au niveau des assemblées de Dieu, il y a ce que l'on appelle le projet M2. Vous avez d'ailleurs un fascicule à la sortie. Si vous ne l'avez pas pris, on vous le distribuera. Et le projet, c'est la multiplication. Il y a un texte de l'Écriture où le prophète dira « Multiplie le peuple !» Alors on pourrait dire, c'est bien ce matin, regardez, la salle est pleine. Béni soit Dieu. Mais s'il y avait 2, 3, 4, 10 églises comme ça dans la ville, ce ne serait pas plus mal, qu'en pensez-vous ? Multiplie le peuple. Multiplication des disciples, multiplication des églises et multiplication des serviteurs de Dieu. Eh bien, votre offrande y participe et y participera. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et je crois vous le dire avec mon cœur, de la part du Seigneur. Faisons preuve de générosité, parce que un jour, nous en récolterons les fruits bénis sur cette terre, et puis aussi dans le royaume de Dieu. Servons le Seigneur avec tout ce que nous sommes, nos talents, nos capacités naturelles et spirituelles surtout, et puis aussi avec nos biens matériels. Et Dieu nous accordera sa grâce. Amen. Prions-le.